Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux futures élections départementales dont le premier tour aura lieu dimanche 22 mars, dimanche prochain, et le second tour le dimanche 29 mars. C'est la deuxième des cinq émissions spéciales que Radio Vassivière va consacrer à ces futures élections départementales, anciennes élections cantonales, et nous recevons aujourd'hui Sylvie Pétron, enseignante et militante politique, et Laurent Sauvageon, employé commercial et délégué au conseil national du Parti de gauche, tous deux candidats sur le canton de Feltin pour le Rassemblement citoyen pour une alternative à gauche, rassemblement soutenu par le Front de gauche. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui.
Bien. on va partir pour une petite demi-heure d'entretien. Pour commencer, c'est impossible d'éviter de parler de toutes les modifications que ce scrutin a connues. Élection de conseillers départementaux et non plus généraux, modification du calendrier électoral, canton redécoupé, mise en place d'un scrutin par binôme mixte, renouvellement de tous les conseils départementaux en même temps contre un renouvellement par moitié tous les trois ans auparavant. On ne sait pas encore clairement quelles seront les compétences et attributions des futurs conseillers départementaux. Comment fait-on campagne avec tous ces changements ?
On fait campagne à notre manière, avec nos propositions et notre méthode, puisque justement, vu le manque de visibilité que nous avons sur le conseil départemental, il est évident qu'il faut, faire preuve d'imagination et de créativité pour mener à bien cette campagne, d'autant plus que vous n'avez pas rajouté là-dedans, c'est que...
La liste était déjà longue.
Oui, et il y en a une qui est pas mal, c'est que après 2020, on ne sait pas si le conseil départemental existera encore.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons élire des personnes pour 6 ans qui ne feront peut-être que 2 ans, 3 ans, on ne sait pas.
Comment on fait campagne du coup ?
Voilà, donc nous faisons campagne justement en invitant les citoyens à participer non seulement le 22, le 29, mais à participer pendant toute la durée de notre mandat à l'élaboration de la politique du département, du canton, parce que pour nous, c'est vraiment le moyen de faire de la politique avec les citoyens, pour les citoyens. On veut se débarrasser justement de ces hommes politiques. Et quand on dit homme politique, on entend bien par là la professionnalisation de la politique. Tous ces gens qui font de la politique pour gagner leur vie, nous, ce n'est pas notre ambition, ce n'est pas notre objectif. On fait de la politique pour les citoyens.
J'ai envie de m'intéresser à deux modifications de ce scrutin. La première, c'est le principe du binôme mixte, qui est a priori un mode de scrutin unique au monde. Le futur conseil départemental sera composé de 50% de femmes et de 50% d'hommes. Sylvie, j'ai envie de poser cette question à vous. Qu'est-ce que ça va changer d'après vous, cette parité ?
Je pense que ça va permettre d'avoir plusieurs points de vue, des points de vue différents. Le problème, ça va être au niveau des présidents et des vice-présidents, où là, je ne suis pas sûre que la parité va être respectée, vu qu'elle ne sera pas imposée. Donc, on aura peut-être un...
Il faut surveiller l'élection des...
Je pense, oui.
Des présidents et des vice-présidents.
Il faudra sûrement se battre.
Mais sinon, ça va quand même apporter du nouveau.
Je pense quand même que c'est...
Est-ce que ça peut participer à un renouvellement du personnel politique, par exemple ?
Oui. Enfin, nous, pour notre mouvement, c'est pas du personnel politique. Donc, ça devrait renouveler les élus.
Au front de gauche, justement, la parité, c'est quelque chose qui est importante, qui est toujours mise en avant. On incite toujours à avoir cette parité homme-femme, de manière à ce qu'il y ait le maximum d'ouverture. Après, la difficulté que nous pouvons rencontrer sur le terrain pour constituer des listes, par exemple, ou pour toute implication paritaire, c'est l'engagement. Trouver des personnes qui s'engagent, des personnes féminines en particulier, qui s'engagent dans les élections, dans la vie politique, là c'est beaucoup plus difficile.
Une autre des modifications importantes, c'est le redécoupage des cantons. Avec ce redécoupage, les cantons sont maintenant plus étendus. Des communes comme Royères-de-Vassivière, par exemple, ne sont plus chefs-lieux de canton. Qu'est-ce que ça va changer pour les habitants et les futurs conseillers départementaux, ces cantons plus étendus ?
Alors, d'avoir des cantons plus étendus, qu'est-ce que ça va changer ? Il y a un problème de proximité qui va se faire, puisqu'on avait l'habitude, en particulier sur le canton de Felletin, on va prendre les choses comme elles sont, c'était le canton de Gensio, Royères, on avait vraiment un côté de la montagne, c'était très géographique. Aujourd'hui, on s'oriente vers plus de quantité de population, hein, il faut dire les choses comme elles sont, à la méthode des communautés de communes, c'est pareil. Et donc, moi j'ai rien fait, ils ont fait du redécoupage peut-être un peu trop électoral, et voilà, ça va être très compliqué d'être partout sur le terrain, toujours avoir le maximum de proximité. Donc nous mettons en place justement, après ces élections, des relais sur le canton, de manière à pouvoir faire notre politique de proximité. Et ça sera comme ça que nous allons pouvoir gérer ces grands cantons, surtout ici, quoi, parce que entre Saint-Martin-Château et Saint-Frillon, il y a de la distance.
On va faire une toute petite parenthèse pour parler de l'inévitable réforme territoriale. On ne peut pas ne pas en parler. Quelle place pour le département de la Creuse dans cette nouvelle grande région Aquitaine, Poitou, Charente, Limousin, en sachant que la Creuse sera le département le plus faiblement représenté, avec 4 élus seulement sur les 183 élus que comptera cette future assemblée régionale?
On touche encore une fois au problème de la population. On ne représente pas les populations, on ne représente pas les citoyens dans les conseils départementaux, dans la région, dans tout ce qui se met en place. Les personnes n'ont pas leur place. Voilà. On raisonne mathématiquement. Par intérêt, on va créer cette grande région avec, pour reprendre une expression... le duc de Bordeaux, voilà, hein, c'est le duc d'Aquitaine, ça y est, on revient au Moyen-Âge. Pour nous, c'est ça.
Et vous pensez que comment la Creuse pourra se faire entendre dans cette région ?
Ça va être très difficile. C'est pour ça que le mouvement citoyen est important. Il n'y a que les citoyens qui pourront se faire entendre. Politiquement, ça va être très compliqué. 4 voix, c'est rien. C'est rien sur 124 ou
183.
183, oui.
On va maintenant revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le département de la Creuse et son conseil général. Quel bilan vous dressez de l'action du conseil général sortant ?
Alors, le bilan du conseil général sortant, on peut pas dire que ce soit négatif, mais à quelque part, les investissements qui sont faits par le conseil général sortant, on voit, comment vous expliquer ça, la rupture qu'il y a entre le sud et le nord du département, une inégalité de traitement. Voilà. Pour moi, il y a une inégalité de traitement. Les conseillers généraux n'ont peut-être pas été assez fermes et beaucoup trop complaisants, à mon avis, à la méthode socialiste pour gérer un département équitablement.
Et quel territoire du département, d'après vous, est le moins bien traité ?
Le Sud-Creuse a beaucoup morflé, on va le dire comme ça, mais c'est une réalité. Au niveau de la voirie, par exemple, les programmes qui ne sont pas faits. Quoi. Par exemple, pour accéder à Felletin, d'Aubusson à Felletin par la route de Clermont-Ferrand, c'est une catastrophe. Quoi. Donc bon, peut-être il y a des projets qui étaient en cours, mais le fait est qu'aujourd'hui, plutôt que de faire une réfection de la voirie, on a planté des panneaux pour dire de rouler moins vite. Quoi.
Ça, c'est pour le bilan du conseil général sortant. On va passer à vos propositions, si jamais vous étiez élu conseiller général ou départemental. Départemental, maintenant, dans votre profession de foi, vous vous positionnez clairement contre les politiques d'austérité et vous vous proposez d'ouvrir une autre voie à gauche en mettant en avant la justice sociale et écologique. Concrètement, comment ces intentions peuvent se traduire à l'échelle du département de la Creuse ?
Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'au niveau du département, beaucoup d'actions, ce sont des actions sociales qui sont en priorité. Et demain, je pense encore plus que hier, puisque la suppression des compétences du département, la clause générale de compétences, cette suppression également, va amener des situations compliquées au niveau associatif, par exemple. Ça, il faut que les gens l'entendent, c'est que les orientations du conseil départemental qui va être élu devront mettre beaucoup de bonne volonté pour aider justement cette justice sociale, pour œuvrer à cette justice sociale. Car il sera très simple au nouveau département, à sa nouvelle représentation, de faire l'impasse sur tout ce qui est social.
Et justement, là vous parlez du social, la loi du 27 janvier 2014 désigne le département comme chef de file en matière d'aide sociale. Alors c'est des aides sociales qui concernent l'enfance, les personnes handicapées, les personnes âgées, les aides sociales ou encore ce qu'on appelle la contribution à la résorption de la précarité énergétique. Quelles sont les propositions, vos propositions sur ces différents sujets ?
On n'a pas. Par rapport à la dépendance énergétique, c'est un sujet qui est à la fois compliqué, on va dire, et énorme, colossal, puisque le département, et pas un département, enfin en particulier par chez nous, c'est un canton, c'est une situation qui est de moyenne montagne, donc avec des particularités différentes, voilà, en matière d'habitat aussi, puisque nous avons beaucoup de choses qui sont classées, donc la modernisation des bâtiments est terriblement compliquée à mettre en œuvre et coûteuse. Ça, c'est inévitable, et c'est un sujet quand même qui est important à voir. Et qu'il va falloir travailler. On ne pourra pas décréter du jour au lendemain, vous changez vos fenêtres comme ça. Ça ne sera pas forcément possible.
Donc ça, c'est pour la précarité énergétique. Est-ce que vous avez d'autres propositions pour les personnes âgées, l'enfance, les aides sociales ? Sylvie, toujours pas ? Laurent, vous allez devoir répondre à toutes les questions.
Je vais être obligé de répondre à toutes les questions, ça ne va pas du tout. En ce qui concerne l'enfance, par exemple, on peut parler des compétences justement du département au niveau des collèges, avec le transfert de la compétence transport scolaire à la région. C'est d'une logique à toute épreuve, surtout dans nos territoires. Sylvie pourrait nous parler justement de...
C'est une problématique fondamentale, le transport scolaire sur un territoire comme le nôtre.
Tout à fait, elle pourrait nous en parler aisément. Puisqu'on en a discuté justement hier et qu'on assiste à des situations tout à fait ubuesques, Sylvie, par rapport justement au transport entre Aubusson et Crozes. C'est ça, hein. Mm-hmm. De Aubusson et Crozes, ça prend en voiture trois fois rien. Et dès l'instant qu'il s'agit de transport scolaire, même d'ailleurs s'il n'y a pas de transport scolaire... Hein, c'est ça ? C'est une ligne...
C'est la ligne TER qui marche donc le matin, mais les enfants ne rentrent pas le soir parce qu'il n'y a pas de car qui les ramène le soir. Donc faire Crozes Aubusson, c'est quasiment une aventure, quoi.
Et alors le département, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour changer ça ?
Je pense qu'il pourrait déjà réfléchir des lignes existantes. Ce n'est même pas une création de ligne. C'est déjà mettre en adéquation les lignes avec des horaires scolaires... je pense qu'il faut justement interroger les gens et poser des questions pour avoir vraiment les besoins de la population, parce que mettre une ligne à des horaires qui correspondent à rien, forcément elle peut pas être fréquentée, donc assez facilement on peut dire elle est inutile et on va la supprimer.
Ce que vous proposez, c'est de prendre des décisions en consultant la base, en partant du...
Bien sûr, il y a comme ça que ça peut être auprès des gens. Si on prend des décisions et que personne ne sait ce qui se passe...
On va parler d'un autre sujet qui est compliqué sur un territoire comme celui de la Creuse, c'est la situation de l'accès aux soins. On parle souvent de la Creuse, ou on entend parler de la Creuse comme étant soit un désert médical, soit un futur désert médical. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel bilan vous faites de cette situation et quelles propositions vous avez pour en sortir ?
Alors, un futur désert médical peut-être, comme beaucoup de territoires, et pas forcément des territoires ruraux. Déjà, ça, c'est un point, c'est clair. On voit dans des départements comme dans le 93, où il y a des villes qui sont des déserts médicaux. Voilà. Ce qui concerne la Creuse, il y a des maisons médicales qui sont mises en place, déjà. Et puis, il nous appartient d'inciter de jeunes médecins, praticiens, à s'installer sur la Creuse.
Alors comment on peut rendre le territoire attractif pour ces jeunes médecins ?
Alors moi je vois par exemple sur Felletin, nous avons aujourd'hui une sage-femme qui s'installe. Elle est jeune, très jeune d'ailleurs. La volonté qu'ils ont eue de s'installer justement, c'est cette possibilité, parce qu'il ne faut pas croire qu'on soit mal loti. Ce qui nous manque après, sur la Creuse, c'est des ophtalmologistes, par exemple. Il va falloir aller chercher des ophtalmologistes. Parce qu'on a quoi ? Au Buisson, en Sud-Creuse, il n'y a rien. Si en dessus de 50 ans, vous pouvez avoir un rendez-vous sur Aubusson. Mais autrement, il n'y a plus rien. C'est guéré.
Et alors, comment on fait venir les ophtalmologues ?
Les incitations fiscales, déjà peut-être.
Vous avez été coupé, vous pouvez reprendre votre réponse. Vous parliez d'incitations fiscales, c'est
oui,
ça ?
Oui, je pense que c'est ce qui nous permettra de faire venir des médecins, des infirmières, enfin tout ce que... Parce que la Creuse a besoin.
L'incitation fiscale, mais il y a aussi le fait de pouvoir accueillir. Beaucoup de médecins seraient prêts à venir chez nous dans des structures déjà construites qui puissent les accueillir facilement, qui n'aient pas besoin de faire de gros investissements. Ça serait de l'argent public bien placé. Bien placé parce que c'est un service que nous rendons, que nous rendrions à la population.
On va parler d'une autre compétence départementale, la mobilité. Tout à l'heure, on parlait des transports scolaires en particulier. Est-ce qu'on peut parler un peu de la mobilité de proximité en général ? Par exemple, le trajet Royère de Vassivière-Felletin est relativement difficile. Il n'y a pas ou très peu de transports en commun. Comment on pourrait agir ? Comment vous pourriez agir au Conseil général, au futur Conseil départemental, pour changer cette situation des transports publics ?
La mobilité sur le territoire est toujours une grande question. Et il est vrai que Sud-Creuse, on est toujours dans la problématique Sud-Creuse, avec le peu de population et beaucoup de territoires à couvrir. Donc il est évident que la mise en place de lignes, surtout avec les intercommunalités, il va falloir bien que ces intercommunalités, un jour, puissent couvrir leur territoire. On ne peut pas penser que, par exemple, en ce qui concerne la communauté de communes de Creuse-Grand-Sud, qui regroupe Gensioux-Aubusson, par exemple, il faudra bien un jour ou l'autre que les infrastructures qui sont construites par la communauté de communes soient accessibles à tous les administrés. Moi, je trouve inadmissible les habitants de Gensioux, par exemple, soient obligés de prendre leur véhicule pour aller à la piscine de la communauté de communes, qui est où ? À Aubusson. Et tout est construit à Aubusson. Donc il y a vraiment un gros souci à ce niveau-là. Et le transport doit faire partie du maillage de la communauté.
Et alors, comment le Conseil départemental pourrait agir pour... ce serait des transports subventionnés. Enfin, comment on pourrait mettre ça en place concrètement ?
Donc il peut y avoir plusieurs méthodes, mais il y en a une qui pourrait être aussi efficace, c'est peut-être d'obliger la communauté de communes à assumer ses choix de construction, donc de connexion.
On va rester dans le domaine de la mobilité, mais cette fois dans la mobilité au sens large du terme, puisqu'on va parler d'un sujet qui divise beaucoup, la ligne Corail, anciennement Corail et maintenant Intercité, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse contre la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges. La ligne à grande vitesse a récemment été déclarée d'utilité publique et ça a été publié au Journal officiel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous vous positionnez par rapport à ces deux projets différents qui s'affrontent ?
Concernant la LGV, une déclaration d'utilité publique, si ça leur fait plaisir, oui. Mais c'est quand même une aberration. Aujourd'hui, pour une fois qu'on peut peut-être écouter la Cour des comptes, ce qu'elle dit, que c'est une ligne qui est vouée à l'échec, qui n'a aucune rentabilité, il est peut-être nécessaire d'envisager d'autres solutions qui ont déjà été apportées par le collectif POLT, avec les nouveaux matériels qui existent de trains à accélération rapide, freinage rapide. Le gain de temps qu'apporterait le TGV sur la distance, c'est 20 minutes. C'est ridicule, c'est insignifiant pour un train.
Et donc, le risque, ce serait de voir la ligne POLT disparaître et une fermeture de la gare de la Souterraine ?
Alors, ça serait dramatique. Ça serait dramatique de fermer la ligne POLT. C'est peut-être le dernier contact avec la civilisation, le dernier contact avec la civilisation qu'a la Creuse. C'est vrai, puisque aujourd'hui, vous allez à la Souterraine, 2h30 après, vous êtes à Paris. Demain, s'il faut aller à Limoges pour prendre un TGV, pour je ne sais quoi, non, ça devient compliqué.
Donc pour vous, la priorité, c'est la ligne Paris.
C'est la ligne POLT.
La ligne POLT.
C'est le POLT.
Paris, Orléans, Limoges, Toulouse. Oui. Des fois, les gens entendent POLT, mais ne savent pas forcément
oui, Paris, Orléans.
De quoi on parle. On va passer à un autre sujet qui divise lui aussi. C'est cette fameuse ferme des 1000 veaux et même des 1400 veaux maintenant de Saint-Martial-le-Vieux. Quelle position vous avez sur ce projet ?
Alors la position sur le projet, parce que il a fallu que nous étudions ce projet avec les éléments qu'on a pu nous fournir. C'est pas toujours très clair. Chacun y va de son petit mot. Il est un fait là par contre qui est réel. C'est la subvention fournie par la collectivité à cette installation. Voilà. Moi, je pense qu'on doit parler de ça et de la corrélation qu'il y a entre cette subvention et ce que ça apporte. Aujourd'hui, c'est 1 400 000 euros de subvention d'argent public. Je ne dirais pas donné, mais pas loin, à une entreprise privée. Pour nous, si on est capable de donner 1 400 000 euros à une entreprise privée, on est capable de les gérer. Et moi, dans le dossier que j'ai lu sur la ferme des 1000 veaux, nulle part, il est inscrit que nous participons, enfin que la communauté de communes participe à la gestion de cette entreprise. Voilà. Ensuite, ce qui est au niveau de la structure même, on a ce qu'on appelle du capitalisme vert, panneaux photovoltaïques, unités de méthanisation. Enfin bon, c'est vraiment du capitalisme vert. Et on n'a pas de... Il nous manque des informations, justement, sur le traitement des rejets.
Quand vous dites capitalisme vert, j'entends plein de sous-entendus, mais ils ne sont pas dits. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par capitalisme vert ?
C'est beaucoup de choses à la fois. C'est qu'en même temps, on va donner de l'argent à une société privée pour qu'elle gagne de l'argent, alors que le retour sur investissement de la commune, des fonds publics, il n'y en a pas. Il y aura un loyer, bien sûr, mais il n'y aura pas de véritable retour sur investissement. Et de contrôle. Il est nécessaire de contrôler. En plus, nous avons, et je vois ça de très mauvais œil, installé, comment vous expliquer mon point de vue, utiliser, voilà, le terme juste, c'est utiliser le plateau de 1000 vaches comme vitrine d'un produit qui ne sera pas ce qu'il est.
C'est-à-dire ?
Eh bien, vous allez avoir des animaux engraissés. Alors, on vous dit, oui, ils ne seront pas engraissés par du soja importé, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, ça sera... Et on va vous vendre à côté, parce qu'on connaît comment ça se passe, hein, on va vous vendre à côté un produit issu du plateau de 1000 vaches, avec des petites vaches qui gambadent dans l'herbe, et puis ça ne sera pas ça. C'est du mensonge. Encore une fois, on va inventer un produit qui n'existe pas.
Donc ce qui vous gêne, c'est le côté à la fois subvention et le côté comment dire, flou artistique entretenu autour des retours du projet.
Oui, c'est pas clair. Un projet pas clair, de toute façon... Si les agriculteurs, enfin les producteurs de ces veaux veulent se mettre ensemble, créer une coopérative pour engraisser des veaux d'une autre manière, c'est possible, il y a les moyens de le faire, mais pas pour les revendre à une société privée. Voilà, ça je trouve ça. C'est pas logique.
Et pour revenir à vos propositions, il y a deux propositions, je ne sais pas si on aura le temps de parler des deux, on va déjà parler de la première. Vous proposez de signer la charte nationale anti-corps, c'est-à-dire la charte nationale anti-corruption. Pour vous, c'est vraiment une nécessité de signer cette charte? Et pourquoi?
C'est une nécessité de signer la charte anti-corps, c'est un engagement qu'on prend devant les citoyens. Pour éviter justement, enfin, c'est un modèle, c'est une manière de travailler. Hein.
Vous pouvez vous raquer la gorge, il n'y a pas de problème, on est tous enroués en ce moment.
Oui, c'est une manière de travailler et de respecter les citoyens qui nous ont choisis, élus. Il faut vraiment être exemplaire. Hein. On voit aujourd'hui tellement d'affaires qui dégoûtent. Les citoyens d'aller voter, qui dégoûte les gens, qui leur permet de penser, de faire après n'importe quoi, qu'il est important que nous soyons exemplaires dans notre manière d'agir et dans notre présentation.
Et vous avez une autre proposition, c'est celle de respecter le non-cumul des mandats. Alors non-cumul des mandats, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux mandats, un seul mandat, deux mandats consécutifs, parce qu'il y a plein de possibilités.
Pour nous, enfin... Je pense que pour Sylvie aussi, le non-cumul des mandats, c'est un mandat. Pas deux, c'est un.
Un mandat. Un mandat, comment dire, par personne ou un mandat de suite? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, en fait?
Oui, je comprends, oui. Alors, ça, c'est une autre vision. On estime que un mandat, à la rigueur renouvelé, puisque selon les mandats, pour réaliser les travaux nécessaires, ça en demande deux. Hein, le temps de se mettre en place et que ça vienne, il en demande deux. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est un mandat et limité dans le temps, un maximum deux. L'un derrière l'autre.
Deux mandats maximum.
Pour le même.
À la suite.
Voilà, à la suite.
On arrive à la fin de la demi-heure. Pour conclure, vous vous êtes clairement positionné contre l'austérité. L'État, lui, de son côté, veut faire ou doit faire, ça c'est comme on veut, des économies. Et pour ça, il réduit considérablement ses dotations territoriales. Le futur conseil départemental devra-t-il, lui aussi, d'après vous, faire des économies? Et si oui, sur quoi?
Ça va être très difficile. Très, très difficile. Le budget du conseil départemental, d'ailleurs, il a déjà été voté. C'est ce qu'il y a de formidable. Donc on héritera de ce qu'on nous donne, malgré quand même une baisse de 4%, c'est pas négligeable.
Ça va être très difficile de faire des économies.
Ça va être très difficile de faire des économies, et les économies en soi ne sont pas forcément économiques.
C'est-à-dire,
on va prendre à un échelon plus large. Quand vous faites une économie, quand on parle d'argent public, hein, et qu'on dit on fait des économies, donc on fait des coupes dans les budgets, on ne redonne pas d'argent, eh bien cet argent qui n'est pas redonné, qui n'est pas réinvesti dans l'économie, eh bien crée de la déflation. Et aujourd'hui, on est dans cette austérité. On a 50 milliards, la France fait 50 milliards d'économies, l'Europe vient d'en demander 30 de plus. Et 4 pour cette année. Donc aujourd'hui, nous étions à 0% de progression. Demain, on est dans la récession. Voilà. Voilà ce qu'il faut entendre, c'est ça. C'est que demain, le pays rentre dans la récession. Et il n'y aura plus de...
Je vous coupe, c'est parce qu'on arrive à la fin. C'est très très impoli. On arrive à la fin de la demi-heure et on est coincé par le temps de parole. Merci à vous Laurent Sauvageon et merci à vous Sylvie Pétron, même si on ne vous a pas beaucoup entendu, de vous être déplacé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes tous les deux candidats sur le canton de Felletin pour le Rassemblement citoyen pour une alternative à gauche, rassemblement soutenu pour le Front de gauche. C'est pour les prochaines élections départementales qui auront lieu le dimanche 22 mars et le dimanche 29 mars. Je rappelle que c'est des élections par binôme, il ne faut pas rayer de nom, sinon le bulletin est nul. Et bien on se retrouve très bientôt sur les ondes de Radio Vassivière. Bye bye.